Que le nom du Seigneur soit béni pour ces moments précieux où la parole de Dieu, elle est vivante. On a partagé mardi, la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'elle agit. Elle agit dans un cœur. Vous savez, c'est beau. Il y a des fois, des gens ils disent « Oh, j'ai pris tel médicament, c'était efficace, vraiment. » Et c'est vrai qu'il y a des médicaments efficaces. Il y en a qui tuent, peut-être, mais il y a des médicaments efficaces. Alors, ce que Dieu réclame avant tout, c'est la condition de notre cœur. Dans Matthieu chapitre 13, il y a une parabole. Enfin, il y en a plusieurs dans Matthieu 13. Mais dans Matthieu 13, il y a une parabole qu'on appelle communément le semeur et les terrains. Jésus sait comment parler à quelqu'un. Nous, on ne sait pas des fois parler à quelqu'un. Hein, c'est vrai, des fois, on est maladroit. Mais Dieu, il sait comment. Il sait parler. Vraiment, il sait parler. Matthieu chapitre 13, verset 1er. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 2, qu'est-ce qui est dit? Qu'il y avait une grande foule à tel point que Jésus a été obligé de prendre une barque pour prêcher avec, sur la mer pour que le lac fasse réverbération. Et au verset 10, regardez ce qui se passe. Donc il y a une grande foule, ils ont entendu, je ne sais pas comment ils ont réagi, oh, c'était bien, c'était intéressant. Mais regardez quand même ce qui se passe. Verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Une grande foule a écouté, mais en fin de compte, il n'y en a que quelques-uns qui se sont approchés. Vous voyez, Dieu parle, mais Dieu voit qui est intéressé vraiment. Et là, il n'y en a que on ne sait pas combien, mais les disciples. Verset 11, Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère des royaumes des cieux et que cela... » ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Pardon. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent. Verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Et on ne peut pas le lire, mais à partir du verset 24, les disciples qui s'étaient approchés ont eu la faveur d'avoir une autre parabole, alors que bien sûr la foule, elle, était déjà loin, lorsque Jésus leur proposait une autre parabole. D'ailleurs, il va leur en proposer plusieurs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient soif. Et Dieu donne en fonction de notre soif. Cette parabole, cette explication, nous prouve que on peut entendre Dieu nous parler et qu'en fin de compte, ça ne nous approchera pas de lui. S'approcher de Dieu, c'est quelque chose. Aller dans une église, vous savez, c'est une chose. Chanter des cantiques, même s'ils sont beaux, c'est une chose. Mais vouloir l'explication, vouloir entendre la voix de Dieu. On m'a posé la question dernièrement, cette parabole, elle est pour les chrétiens ou pour les pécheurs? Alors, elle est pour qui elle est cette parabole? Pour tout le monde. Ça n'a rien à voir avec le choix. Ça a à voir avec le cœur. C'est une parabole qui est valable pour les pécheurs et c'est une parabole qui est valable pour les chrétiens. Cette parabole nous parle du cœur de l'homme. Comment est notre cœur? C'est important, la Bible dit, mais donne-moi ton cœur. Parce qu'en fin de compte, ce que Dieu voit, c'est notre cœur. Dans quel état il est notre cœur? Vous savez, David, quand il a été confronté à la vérité, il a dit au Seigneur, renouvelle un cœur bien disposé, renouvelle-moi. Il savait que son cœur avait besoin de restauration. Et Dieu sait si nous avons besoin d'être restaurés. Et pour cela, il faut savoir dans quelle catégorie vous êtes. Il y en a quatre. C'est vite fait. On en a pour 4 heures. 1 heure chacun. Ça vous va? On diminue à 3 quarts d'heure chacun. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, on va faire 20 minutes, on va faire les 4. D'accord? Donc, le Seigneur, il connaît l'état dans lequel vous vous trouvez. Et il sait si vous êtes en train de vous endurcir, si vous êtes en train de vous attendrir, si vous êtes en train de cacher des choses, si vous êtes en train de laisser certaines choses vous envahir, etc. Alors, à partir du verset 18, il y a l'explication, d'accord? Vous donc, c'est-à-dire ceux qui s'étaient approchés. Vous savez, si vous prenez le temps chez vous, de vous approcher de Dieu, de dire, tiens, je comprends pas, en ce moment, je lis le livre du Lévitique, par exemple. Est-ce qu'il y a des livres que vous avez du mal à... Moi, quand je me suis converti, quand j'ai lu le livre du Lévitique, je vous assure, je suis passé de suite au livre d'après. J'y comprenais rien. La première fois que j'ai lu l'Apocalypse, j'ai dit, mais c'est en français. Parce qu'il y a tellement de symboles dans l'Apocalypse que si vous connaissez pas les symboles de la Bible, c'est presque impossible de comprendre le livre de l'Apocalypse. Mais à force de s'approcher, on comprend les choses. Vraiment, je peux vous dire qu'on les comprend. Donc, premier terrain. Celui qui écoute la parole du royaume, qu'est-ce qui se passe? Il ne la comprend pas. Le diable, bien sûr, vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence ou le long du chemin. Notre cœur peut être... Est-ce que vous auriez semé, vous, sur un chemin? Vous voyez, ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Un agriculteur, il sème sur le terrain. Il ne va pas semer sur le chemin. Mais vous voyez, l'enseignement qui ressort, c'est que Dieu, il aime tous les gens, tout le monde. Et il veut que sa parole soit semée sur tous les cœurs, sur tous les terrains, quels qu'ils soient. Parce qu'un cœur, même qui est dur comme un chemin c'est quoi? Un chemin c'est un endroit qui est piétiné par les gens. Et il y a la vie de certaines personnes qui est tellement traumatisée à cause de ce que les autres ont fait en eux. Vous savez, il y a des vies qui sont vraiment piétinées. Il y a des cœurs qui sont mal en point. Pourquoi? Parce que les gens qu'on pensait avoir pour amis nous ont plus fait de mal qu'autre chose. Est-ce que ça peut arriver, ça? Un cœur peut être comparé. Si Jésus le dit, c'est que c'est vrai. Et que ça se produit. Donc Dieu, lui, dans sa souveraineté, sème sur tous les terrains. Parce que même un cœur qui est piétiné par la vie, par les gens, par les attaques de l'ennemi, tout ce qu'on voudra, Dieu est capable de le changer. Et on pourrait prendre le temps, vous voyez, les 4 heures sont à notre disposition, pour prendre des cœurs dans la Bible qui ont été vraiment piétinés, ou les gens se sont laissés piétiner. Parce que vous savez, c'est facile de dire qu'un cœur a été piétiné, mais il y a des gens qui ont ouvert la porte à tout. Dans l'ignorance ou volontairement, il y a des cœurs qui sont vraiment, vraiment mal en point. Mais quand vous lisez la Bible, vous voyez des hommes qui étaient vraiment, vraiment, mais durs, mais d'une dureté pas possible. Eh bien, Dieu a permis des circonstances où leur cœur a été travaillé. C'est pour ça que je ne sais pas dans quel terrain vous êtes. Vous devriez pouvoir vous retrouver, même si on n'aborde pas tout d'une manière totale. Vous devez quand même, à la fin de ce petit message, dire « Mais c'est vrai, moi je me laisse facilement piétiner, je me laisse facilement dominer par les gens, je me laisse écraser, je ne laisse pas la grâce de Dieu travailler mon cœur. » Il y a des gens, ils écoutent, mais en fin de compte, comme on dit ça, ils écoutent la parole de Dieu, ils comprennent rien. On a eu affaire avec Nicolas, une dame, moi ça m'a brisé le cœur, c'est un des cas les plus graves que j'ai vu. Ici, il y a quelques mois, une femme qui est chrétienne depuis 70 ans, son cœur est exactement comme ça. 70 ans, qu'elle écoute la parole de Dieu, elle ne comprend rien. Vous vous rendez compte? 70 ans, je l'ai dit l'autre jour, ça a fait rire du monde. 70 ans, j'ai vite calculé, si elle a écouté 2 ou 3 prédications par semaine, ça fait 14 400 prédications. Pour rien. Pour rien. C'est oui ou non? Et c'est écrit, vous voyez, il y a des gens qui écoutent, ils ne sont pas arrivés au bout de la rue que déjà le diable a réussi à enlever la semence parce que leur cœur est dur et que cette semence ne peut pas descendre comme cela devrait être le cas lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Si votre cœur est bien disposé, vous dites « Oh, ça c'est important, tiens, je le marque, je le note ». Vous avez de fortes, fortes chances que ça descende dans votre cœur. Pourquoi ? Parce que vous dites « Oh, ça c'est important, tiens, cette parabole, je vais la reméditer pour moi. Est-ce que, tiens, quand je suis au bout de la rue ou quand je suis arrivé à la maison, déjà, les choses de la terre ont fait leur travail, leur mauvais travail, et que j'ai complètement déjà oublié ce que Dieu m'avait donné. » Parce que Dieu parle. Hein. Est-ce que vous croyez que Dieu parle? Dieu parle. Et la même prédication n'a pas le même effet sur les gens. Il y a des gens, ils vont écouter un chant. Ils pourraient repartir à la maison. Ils sont déjà bouleversés, ils ont été touchés. Ils ont chanté « Ouvre ton cœur au mourant du calvaire. » Oh, c'est... Je peux ouvrir mon... Vous voyez, il y a un chant, il y a des gens au bout d'un chant, ils arrivent à l'église, il y a des gens, ils ont chanté 10 cantiques, après ils ont pris la Sainte-Seine, ils sont encore... Est-ce que vous le savez qu'il y a des gens, ils réagissent pas tous de la même manière. Croyez-moi, moi je suis bien placé pour le savoir, parce qu'il y a une disposition de cœur. Oui, Dieu sème sur tous les cœurs. Alléluia. Sur tous les cœurs, et ne vous inquiétez pas si des fois on donne la Bible à quelqu'un qui est complètement endurci, vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que ça peut produire dans le cœur de quelqu'un. Je me souviens, ça m'avait marqué, il y a quelques années, j'avais été à Albi, pendant les vacances de Noël, j'avais pris quelques jours de congé, et quand je suis arrivé, le pasteur m'a dit « Ah, monsieur, vous ne voulez pas prêcher ?» Bon, alors j'ai prêché, et à la fin, il y a un monsieur qui vient me voir, il me dit « Vous ne me reconnaissez pas ?» Non. Tardieu, il me dit. Michel Tardieu. Il s'appelait. Non, je ne vous reconnais pas. Vous vous souvenez pas, on était dans le même hôtel à Capendu quand on réparait les lignes de haute tension. Vous ne vous rappelez pas, c'était en 80. Vous m'aviez offert une Bible. Alors, j'ai commencé à comprendre. Eh bien, vous ne savez pas. 14 ans après, je suis passé devant ma bibliothèque, j'ai vu la Bible, je l'ai pris, je l'ai ouverte et je me suis converti. 14 ans après. Oui, des fois, il faut du temps pour que la graine, elle descende. Oui ou non? Des fois, il faut du temps pour descendre de 10 cm. Mais, vous voyez, comme quoi, ne pensons pas parce que quelqu'un est dur que c'est réglé d'avance. Il y a des gens qui sont d'une dureté pas possible et qui sont devenus des bénédictions. Le roi Manassé en fait partie. Si vous lisez dans 2 Chroniques 33 ou 1 Chronique 33... dans les chroniques, si vous lisez l'histoire de Manassé, vous ne pouvez pas trouver un homme plus dur que lui. Mais Dieu a dirigé les circonstances, c'est bizarre, il s'est retrouvé en prison, il a tout perdu de sa royauté, et là dans la prison, c'est dingue, comment il a réussi à s'humilier, son cœur s'est attendri. Oui, Dieu peut changer n'importe quel cœur, mais c'est sûr que si vous écoutez et que vous ne comprenez pas, et que vous ne comprenez rien, et que dès que vous êtes à la maison, vous avez oublié ce que vous avez entendu, je ne veux pas dire qu'il n'est pas dit, il vous sera fait selon votre mémoire. Je ne vous demande pas de tout mémoriser, ça c'est pas vrai, mais il y a des choses qui se passe quand on écoute la parole de Dieu. Donc si vous rentrez chez vous, vous n'avez rien retenu, ça peut arriver d'un soir d'être fatigué et de ne pas se rappeler. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'est que votre cœur est vraiment dur. Et heureusement que la parole de Dieu peut être comme un marteau. C'est écrit, ma parole est comme un marteau qui brise le roc. Vous savez,
La parole de Dieu, ça peut être comme du lait, ça peut être comme une lampe, ça peut être comme un miroir, on l'a vu tout à l'heure. Ça peut être comme une épée, ça peut être comme un marteau, comme un feu. Béni soit Dieu lorsque la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. C'est pas pour écraser notre personnalité, c'est pas pour nous détruire. Le marteau, c'est pour ne casser que ce qui est dur, pour que la parole de Dieu puisse descendre dans le cœur. Voilà l'explication du premier terrain. Deuxième terrain, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. Alors regardez ce qui se passe, c'est pas pareil, vous voyez. Là, il comprend, à moitié. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt. Comment il la reçoit? Avec joie. Ah, vous vous dites, ah, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, il écoute la parole avec joie. Mais il n'y a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Le terrain a l'air bien, mais le problème, c'est qu'il y a des pierres. Je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs parmi nous, non? Des jardiniers, il y a des jardiniers là, il y en a? Ici à Toulouse, il n'y a pas beaucoup de paysans. Hein. Bon, c'est normal aussi en même temps. Moi, je suis de la campagne. Hein. Moi, je suis un vrai paysan. Un vrai. Ça ne se voit pas trop, mais en fait, des fois, si, peut-être. Mais quand vous avez travaillé la terre, vous savez qu'il y a des terrains qui paraissent super bien. Mais dès que vous tapez dedans, dessous, il y a des pierres. Et les pierres, dans le terrain, nous parlent des problèmes cachés. Les problèmes qu'on ne voit pas. Vous savez, c'est une chose de voir des problèmes, de voir des comportements qui nous... Vous voyez, un cœur, un terrain dur, ça se voit de suite, un cœur qui est dur, qui ne comprend rien. On pourrait dire, oh, celui-là, il est dur, mais celui-là, je le plains. Oui, n'empêche qu'on a vu plein de chrétiens qui étaient, comme je vous disais tout à l'heure, d'une méchanceté, d'une dureté, qui sont devenus des véritables apôtres. Demandez à Saul de Tarse comment était son cœur avant sa conversion. On n'était pas dans la dernière catégorie. On était plutôt dans le premier qu'on vient d'évoquer. Les endroits pierreux, c'est les images, c'est les problèmes qu'on a à l'intérieur, que les gens ne voient pas, mais Dieu les voit. Il y a des problèmes peut-être qu'on n'ose pas en parler, oui ou non. Après, c'est pas de l'hypocrisie, ne jouons pas les malins. Dans notre vie, elle est faite de choses secrètes, de problèmes intérieurs. Et quand vous discutez avec des gens, des fois vous vous rendez compte qu'il y en a qui en parlent, des pierres, on peut en parler. Mais on peut ne pas en parler, on peut les cacher. Et heureusement que Dieu les voit. Alléluia. Heureusement que Dieu voit à l'intérieur de notre cœur. Vous voyez, le diable, il s'est complètement loupé quand il a parlé à Dieu de Job. Vous voyez, Dieu connaissait le cœur de Job. Il connaissait le cœur de Job. D'ailleurs, quand il lui a parlé, moi j'aimerais bien qu'il parle pareil de moi. Tu as remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il le connaissait, avant l'épreuve, il le savait. Il le savait. Mais le diable pensait qu'il y avait plein de pierres. Il n'y en avait aucune. Gloire à Dieu. Parce qu'il l'avait réglé. Quand on est intègre, quand on est droit, eh bien, on a demandé, Seigneur, tu vois, j'ai ce souci. Les pierres, c'est tous les problèmes intérieurs. Et si Dieu permet que certains problèmes ne se voient pas, eh bien, c'est très bien. Si Dieu l'a voulu ainsi. Mais on peut les lui déposer. Seigneur, tu vois, j'écoute avec joie ta parole. Mais au fond de mon cœur, tu vois, j'ai encore des trucs. Personne ne le voit, je le cache sans le vouloir le cacher. Je ne le montre pas, je n'ai pas envie de le montrer d'ailleurs. Mais tu vois, cette amertume que j'ai. Seigneur, s'il te plaît. Je veux m'en débarrasser de moi. Ne me retire pas ton Esprit Saint, disait David. Vous voyez, il savait, David, parce que David n'était pas fou. Il savait ce qui se passait parce qu'il avait vu l'exemple de ce qui se passe quand Dieu retire l'Esprit Saint de quelqu'un. Il avait vu ce qui s'était passé quand l'Esprit Saint avait été retiré de Saül. Vous savez, il y a des choses, ça ne se voit peut-être pas, mais enfin, le fruit, ne me retire. Lisez les psaumes de David, Seigneur, renouvelle-moi, fais ci, fais ça. Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Tu vois, Seigneur, ce qu'il y a. David, il a fait des choses horribles. Et pourtant, c'était un homme de Dieu. Mais il a tout réglé, que le nom du Seigneur soit béni. Et on peut tout régler. On peut enlever toutes les pierres. Alléluia. Ça suffit pas de recevoir la parole de Dieu avec joie. Peut-être vous dire, oh, c'est intéressant. Étudier la Bible, oh, ça me plaît. Il y a des gens, ils viennent pour ça. J'espère qu'il n'y en a pas ici, mais je sais que dans les églises, il y a des gens qui viennent juste pour la connaissance intellectuelle. C'est intéressant. Et c'est vrai que franchement, c'est intéressant d'écouter la parole de Dieu. Mais vous avez vu, il reçoit la parole avec joie, mais il n'y a pas de racine. Il peut pas y avoir de racine. Et c'est dommage, parce que dès que survient une tribulation, eh bien, on y trouve une occasion de chute. Moi, je me rappelle, quand je me suis converti, j'avais jamais ouvert la Bible, et le soir, bien sûr, je suis arrivé à la maison, on m'avait dit, commence par Matthieu, parce que sinon, tu n'y comprendras rien. Alors, je commence par lire Matthieu, j'ai lu 3-4 chapitres, je suis arrivé au chapitre 5. Heureux serez-vous lorsqu'on se moquera de vous, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de vous, réjouissez-vous. J'ai dit, ça va pas tarder, ça. Ça va pas tarder. Des chrétiens, les copains, ils vont, ça va pas leur plaire. Ça va pas manquer. 3-4 jours après, j'ai dit non, moi je m'aime plus, c'est fini. Parce qu'on m'a demandé de mentir. J'ai dit non, on travaille. J'ai dit non, vous ne me ferez pas mentir. Bien sûr, on s'est moqué de moi et tout. Et j'ai pensé à mon texte. Et je crois que quand le Seigneur nous montre quelque chose, il faut l'enlever. Vous savez, j'avais lu un livre sur Judas. Et le livre terminé, ce que vous ne voulez pas perdre, ça vous perdra. Et c'est vrai que quand on aime certaines choses qu'on ne veut pas s'en débarrasser, elles nous perdront. Et quand le Seigneur nous montre quelque chose, autant lui, le Seigneur, aide-moi à l'enlever. Aide-moi. Il y avait un chrétien, je me rappelle, Albi, qui avait un gros problème. Et justement, dans la semaine, j'avais lu un pasteur qui avait écrit sur un livre que les problèmes, c'est pas facile de les enlever. Et il parlait si un chou-fleur arraché, vous voyez, on est chez les paysans encore, si un chou-fleur arraché, on peut l'arracher tout seul. C'est costaud, le chou-fleur, mais ça peut s'arracher tout seul. Si c'est un truc un peu plus gros, peut-être il faut s'y mettre à deux. Si c'est un petit arbuste, il faudra s'y mettre à 3 ou 4, 3, 5 ou 6. Mais on peut y arriver. Et il faut avoir cette honnêteté, comme on va le voir au dernier terrain, de demander de l'aide. Si je peux le faire tout seul, eh bien je m'en occupe tout seul. Si j'ai besoin d'un frère, ben les frères, priez pour moi. J'ai besoin de cette victoire. Vous voyez ? Ça ne suffit pas de recevoir avec joie. Béni soit Dieu pour la joie de partager la parole. C'est une joie. C'est clair que la parole de Dieu, elle donne de la joie. Mais vous avez vu dans ce texte, ça ne suffit pas. S'il y a un problème caché à l'intérieur, il faut demander de l'aide à Dieu. On peut nettoyer les pierres. Bon, mon père, je me rappelle, quand j'ai lu cette parabole, mon père, il avait une chant, c'était un truc de fou. Il n'y avait pas une pierre. Et quand les gens venaient, oh, monsieur Go, ce chant, quelle chance vous avez d'avoir un chant comme ça. Alors lui, il était content comme tout. Mais c'était moi qui enlevais les pierres. Il passait le motoculteur, et moi j'enlevais les pierres, et tu me suis derrière. Et je me vois, j'étais petit, j'avais 7 ans, 8 ans avec mon seau, là, en train de ramasser les pierres. Et j'étais content parce que c'était fini. Et l'année d'après, il recommençait. Et je me suis rendu compte que les pierres remontent. Vous ne le saviez peut-être pas, les pierres remontent dans un champ. Je peux vous dire que c'est vrai, ça je le savais avant de le lire. Mes frères et sœurs, c'est un truc de fou. Les pierres remontent. Il y a des choses qui remontent dans la vie. Mais ça vaut la peine de demander à Dieu qui nous aide. Que son nom soit béni. Troisième terrain. Celui qui a reçu la semence parmi les épines. Il entend la parole. Là, il ne nous est pas dit s'il y a de la joie ou pas, c'est pas grave. Mais c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Là, on n'est pas dans les problèmes cachés, on est dans les choses qui se voient. Les épines, sur un terrain, ça se voit. S'il y a des problèmes qui ne se voient pas, il y a des problèmes qui se voient. Il y a des situations qui se voient. Il y a des choses extérieures. Quelqu'un, par exemple, qui est avare, ça se voit. On peut cacher certaines choses, l'amertume, par exemple, mais l'avarice, au moment de l'autre, ça ressort. Il y a des choses qui se voient. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, le Seigneur parle des problèmes cachés. Bon, mais ça, c'est comme ça, c'est la vie. Puis, il y a des problèmes qui se voient. Mais là, on devrait dire, mais c'est vrai, je suis avare. Les gens, ils le voient. Il y a ça qui va pas. Il y a tel problème extérieur. Si je suis tout le temps en train de me faire du souci. Vous avez jamais vu qu'il y a des gens qui sont tout le temps inquiets? C'est des épines, ça. C'est des épines. Ils empêchent cette grâce de Dieu de s'extérioriser. Quel dommage! Alors qu'on devrait dire, mais Seigneur, moi, ça se voit, les épines, vous voyez, ça, il en est parlé là, qu'est-ce qu'il dit là? Les soucis, les épines extérieures, les soucis du siècle. Ah, les soucis. Il faut s'en décharger des soucis, croyez-moi. De tous les soucis. La séduction des richesses. Alors, tiens, on va lire ailleurs. On va lire dans Luc 8. Dans Luc 8, il en est parlé. Comment c'est dit? Vous voyez, c'est ça, de laisser la parole de Dieu travailler. Dans Luc 8, comment il est parlé de ce terrain? Il y a un peu plus, c'est un peu plus. Luc 8, verset 14. Il va un peu plus loin. Après, vous pourrez le lire dans Marc aussi.
Vous verrez si ça va un peu plus loin encore. Mais ça, je vous le laisse découvrir. Vous ferez comme les disciples qui se sont approchés du Seigneur. Luc 8, verset 14. « Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont, la laissent étouffer par les soucis. » Bon, ça, on l'a lu. « Les richesses et les plaisirs de la vie. » Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Vous voyez ? Alors, les plaisirs de la vie, c'est un sujet, ça tient donc. Les plaisirs, c'est quoi les plaisirs de la vie ? Est-ce qu'il y a des choses que Dieu nous donne afin que nous en jouissions ? Est-ce qu'il est écrit ? Je ne sais pas si pas quelqu'un n'a pas écrit. Dieu nous donne toutes choses afin que nous en jouissions. Est-ce que c'est écrit ? Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Il y a plein de choses qui nous font plaisir et qui sont de véritables bienfaits. Mais il y a des plaisirs qui sont vraiment mondains. Il y a des choses qui sont mondaines, il y a des choses qui sont mauvaises. Et quand le Seigneur dit que ce sont des épines, et c'est pour ça qu'on devrait prier, quand on voit quelqu'un de mondain qui est attiré par les choses du monde, on devrait prier pour savoir comment le lui dire, parce que c'est quelque chose qui, un jour ou l'autre, eh ben, va étouffer la parole de Dieu. Que Dieu nous donne la grâce d'être intelligents. Qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas avec joie, après tout, qu'importe. Mais qu'au moins, on ait cette grâce de dire, tiens Seigneur, montre-moi ce qui est intérieur, montre-moi ce qui est peut-être extérieur, au travers de ton esprit, ou au travers de quelqu'un. Il y a des choses qui se voient. L'orgueil, c'est une pierre ou une épine ? Tiens donc, là, c'est, tiens donc. Alors, qu'est-ce que c'est, d'après vous, l'orgueil ? Comment ? Ouais, ça peut être les deux. Quelqu'un peut jouer l'humble. Est-ce qu'on peut jouer les faux humbles ? On peut jouer. Oui, on peut. Non, on peut la comédie, on peut la faire surtout. Moi, je suis pas longtemps. Mais en fait, il y a des comédiens, il y a des bons comédiens, oui ou non ? Il y a des mauvais comédiens. Mais je pense, vous voyez, que ça vaut la peine. On va pas le faire maintenant parce que les 4 heures sont déjà passées. Mais oui, l'orgueil, ça peut être une épine, ça peut être un problème intérieur. Je le cache, c'est intérieur. Mais peut-être qu'à force, ça va s'extérioriser aussi. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça peut se voir. Donc, vous voyez, ça vaut la peine de réfléchir. Est-ce que la parole de Dieu m'amène à me débarrasser de ce qui se voit ou de ce qui ne se voit pas ? Le quatrième terrain, on termine avec ce terrain, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole, et bien sûr, celui-là, il la comprend. Il porte du fruit, et grâce à Dieu, il y a la loi de la multiplication qui est l'œuvre de la croissance. Vous savez qu'un grain, là je ne vais pas en parler ce soir, mais enfin quand même, pour conclure, c'est quand même bien que nous nous souvenions toujours que si Dieu compare sa parole à une semence, la semence, elle doit être enterrée. C'est l'image quand même de la mort à soi-même. Et que la multiplication n'est possible que s'il y a cette mort à soi-même. Donc le quatrième texte nous parle inévitablement de la croix, plus que cela nous parle de la multiplication qui est possible justement par cette mort. J'accepte que la parole descende, j'accepte la croix, j'accepte vraiment d'être travaillé, parce que ne me racontez pas d'histoire, mais vous allez acheter un champ, il n'y a pas une partie qui est bien, une partie avec des pierres, une partie avec des épines et une partie bonne. Il y a des terrains, et si un terrain est bon, c'est qu'il a été travaillé. Vous comprenez ce que je veux dire ? Celui qui a semé dans la bonne terre, ça indique quelqu'un qui déjà a laissé le Saint-Esprit travailler son cœur. Vous comprenez bien ce que je veux dire ? Bien sûr qu'il y a des gens plus durs que d'autres, il y a des gens plus empierrés que d'autres, etc. Mais une chose est certaine, c'est que s'il y a un bon terrain, c'est sûr, ça ne peut pas être autrement, il y a un travail qui est fait. Et je crois que dans l'Église du Seigneur, lorsqu'on découvre l'Évangile, on permet à la charrue de travailler notre cœur. Seigneur, travaille mon cœur. D'ailleurs, c'est pas écrit labourez vos jachères, tout ça. On voit bien qu'il y a un travail. Là, on peut dire tiens, c'est vrai, j'entends la parole, mais c'est quoi ce cœur ? Qu'est-ce qu'il est dit ? Il entend la parole, il la comprend. Qu'est-ce qui est dit dans ailleurs ? Tiens, on revient dans Luc 8 pour terminer. Hein ? Ça vaut quand même la peine. Hein. Qu'est-ce qu'il est dit dans Luc 8 ? Qu'est-ce qu'il est dit ? Vous m'aidez parce que, vous savez, je suis vieux maintenant. Qu'est-ce qu'il est dit dans Luc 8, verset 15 ? Qu'est-ce que c'est ce bon terrain ? Quel est l'état de ce terrain ? Ça vaut la peine quand même, vous voyez ? Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils la retiennent. Oui, c'est pas le diable qui commande leur vie. Ou le diable, il vient de suite et il enlève et ça s'en va. Non. Les gens qui ont un cœur honnête, c'est des gens qui disent « ça c'était pour moi, ce soir ça c'était pour moi, je manque de persévérance, vous voyez, de persévérer, je manque de violence, de me faire violence, il faut que je retienne ces choses, je dois passer par le calvaire, je dois passer à la croix, je dois me repentir, il est mort pour moi à Golgotha, qu'est-ce que c'est cette bonne terre ?» C'est un cœur qui passe par la repentance, c'est un cœur qui dit « Seigneur, pardon, je suis un pécheur, oui, je suis peut-être différent des autres, j'ai peut-être pas tué, j'ai peut-être pas fait ci et pas fait là, mais je suis comme pécheur. Seigneur, je te demande pardon. Comme je veux être honnête, Seigneur. Un cœur honnête, c'est pas honnête avec votre petite sincérité, c'est honnête avec ce qui est écrit là-dedans. Et la Bible dit qu'on est tous des pécheurs. La Bible dit qu'on est tous perdus. Que quelqu'un ne s'imagine pas parce qu'il était dans une famille religieuse, parce qu'il avait, il a connu comme le jeune homme riche les commandements par cœur. On doit tous passer par la repentance. Même le docteur d'Israël, ça c'est dans la Bible. Le pasteur des pasteurs, quand il a été voir Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Il te faut naître de nouveau. Tous on doit passer par la repentance. Votre religion ne vous sauvera pas. Votre église ne vous sauvera pas, votre intelligence et votre connaissance biblique ne vous sauveront pas. C'est le sang de Jésus-Christ qui vous sauvera. C'est ça, avoir un cœur honnête et bon. Seigneur, eh bien, moi je vais travailler mon cœur. Voilà, moi je vous dis, je suis paysan, je sais ce que c'est de bien travailler les terrains. Ça demande du travail, mais ça vaut la peine. Oui, explique-nous la parabole, Seigneur. Celle-là, j'ai eu une petite explication ce soir, mais est-ce que Dieu pourrait nous donner d'autres explications sur d'autres paraboles qui sont dans la Sainte Bible? Eh bien, on va lui demander sa grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut demander à Dieu un cœur honnête et bon? Il y a une personne, mais c'est deux, trois. Est-ce qu'on peut demander à Dieu, Seigneur, moi je veux ce cœur honnête? C'est pas pour les païens, c'est pas pour les chrétiens. Cette parabole est pour tous les hommes. Si vous demandez rien, votre cœur restera dur. Si vous le demandez un cœur honnête et bon, eh bien Dieu vous le donnera. Demandez et vous recevrez. Nous te bénissons, Seigneur, pour la patience que tu as eue. Tu savais bien que parmi ces grandes foules, seulement quelques disciples voudraient des explications. Seigneur, c'est exactement ce que nous voulons. Être de ces hommes et de ces femmes qui continueront à s'approcher de toi, par ta parole et par ton esprit, tu nous expliqueras les choses. Seigneur, tous ensemble, nous te demandons cette faveur d'avoir un cœur honnête et bon, et un cœur qui retient ce que tu enseignes, car ta parole est vie, ta parole elle est vivante, elle est efficace, et nous te prions pour que nous ressortions tous de ce lieu avec un cœur travaillé. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous sommes ressortis avec un cœur pierreux, avec un cœur dur, alors que ta parole aurait pu nous délivrer, nous guérir, nous apporter la délivrance. Seigneur, oui, nous voulons retenir ta parole et avoir la joie sur la terre de porter du fruit. Je ne sais pas dans quelle catégorie, Seigneur, si on sera dans les 30, les 50 ou les 100, mais une chose est sûre, nous voulons, Seigneur, porter du fruit et nous te demandons de nous aider. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ta parole agisse dans nos âmes par ton esprit. Merci, Seigneur Jésus. Amen.